VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Le processus électoral en République démocratique du Congo aborde sa dernière ligne droite avec la publication ce mercredi de la liste définitive des candidats qui doit officialiser l'exclusion de deux poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Deux autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, sont les principales figures de la liste d'une vingtaine de noms que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, doit publier dans la journée à 94 jours du scrutin. Cette liste ouvrira la voie à la campagne électorale à partir du 22 novembre, puis aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila qui ne pouvait pas constitutionnellement se représenter. Et toujours à propos de la présidentielle du 23 décembre, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, met en garde contre un possible chaos au Congo si les élections prévues dans 3 mois ne sont pas fondées sur les principes et les valeurs partagées au sein de la SADC. Le parti sud-africain a signé un communiqué avec 6 leaders de l'opposition congolaise, Eddy Sango.
L'ANC demande au gouvernement sud-africain de s'engager avec celui de la RDC et la communauté pour le développement de l'Afrique australe au respect du protocole électoral de la SADC, lequel consiste à promouvoir la tenue et l'observation d'élections démocratiques fondées sur les principes et les valeurs partagées de la démocratie, l'état des droits et le respect des droits humains, rappelle l'ANC et la délégation des partis et regroupements de l'opposition congolaise qui ont co-signé les documents. Pour l'ANC, la situation en RDC peut conduire au chaos, à l'instabilité et à la violence si elle n'est pas résolue en urgence. Et si Magashule, secrétaire général de l'ANC, a signé les textes au nom de son parti, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Adolphe Mozito l'ont fait côté opposition congolaise. Le gouvernement du président congolais répète qu'il refuse toute ingérence dans les processus électoraux qui doit désigner un successeur au président Kabila. Fin août, Kinshasa avait même refusé la nomination de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial en RDC, une nomination annoncée par la presse mais jamais confirmée officiellement par Pretoria.
Élection parlementaire vendredi dans le minuscule royaume africain de l'Eswatini. Quelques 400, ce royaume connu autrefois sous l'appellation du Swaziland, quelques 540 000 des 1,3 million d'habitants de ce petit pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique sont appelés à faire leur choix parmi des candidats sans affiliation politique dont la presque totalité sont des fidèles du roi Mswati III. Sont en jeu 59 des 69 sièges du Parlement sur lequel le monarque absolu, l'un des derniers de la planète, exerce un contrôle total. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a exhorté mardi les acteurs politiques en Guinée-Bissau à respecter la date prévue pour les législatives, le 18 novembre, malgré les retards pris dans l'organisation de ce scrutin censé dénouer une crise politique vieille de 3 ans. Ces législatives doivent permettre de mettre fin à la crise politique que traverse ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert auquel M. Vaz lui-même appartient. Vous écoutez la Voix de l'Amérique. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud a déploré aujourd'hui un climat de suspicion entre les partis ayant signé un accord de paix le 12 septembre, regrettant qu'aucune mesure concrète n'ait encore été prise par les belligérants pour appliquer ce dernier. Ceux qui ont signé l'accord ont par le passé été amis et ennemis et il transparaît de nos discussions avec eux qu'il y a encore beaucoup de suspicions, a déclaré David Scherer, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, lors d'une conférence de presse à Juba. Amnesty International affirme dans un rapport publié aujourd'hui que l'armée sud-soudanaise et ses milices alliées se sont livrées à de nouvelles atrocités d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée d'avril à début juillet dans le nord de ce pays en guerre. Dans ce document intitulé « Tout ce qui respirait était tué, des crimes de guerre à Lir et Mayendit », l'ONG a compilé les témoignages de quelques 100 survivants qui font état de civils tués aveuglement pendus à des arbres et écrasés par des véhicules blindés, mais aussi de viols, enlèvements et pillages. La faim augmente dans le monde en cause les caprices du climat, les conflits armés et les troubles politiques. 5 agences des Nations Unies révèlent dans un rapport qu'en 2017, pour la troisième année consécutive, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a grimpé, un chiffre qui avait tendance à reculer auparavant. Edith Sango a joint Dominique Bourgeon, le directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
Depuis l'an dernier, 2 ans en fait, nous observons une augmentation et cette année, malheureusement, nous comptons 821 millions de personnes, soit une personne sur 9 dans le monde qui est en situation de sous-alimentation chronique. Alors à cela, nous avons identifié 3 causes principales qui sont tout d'abord la prévalence des conflits dans un certain nombre de pays qui a un impact important sur la propagation de l'insécurité alimentaire dans ces pays. La deuxième cause que nous avons identifiée est liée à la variabilité du climat et aux extrêmes climatiques. Et ensuite, la troisième cause, malheureusement, qui affecte un certain nombre de pays, est liée à la situation de crise économique que traverse un certain nombre de ces pays. Cette année, l'accent est mis dans le rapport sur la variabilité du climat et les extrêmes climatiques. Et ça nous préoccupe beaucoup, dans la mesure où nous voyons qu'en fait, nous avons un nombre croissant de pays qui sont confrontés à ces situations, avec, dans ces pays, un nombre croissant de personnes en insécurité alimentaire.
Et l'Afrique, dans tout cela, reste le continent le plus touché, mais dans quelle proportion ?
21% de la population, soit 256 millions de personnes, sont en situation de sous-alimentation chronique. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la plus affectée, puisqu'on considère qu'entre une personne sur 4 et une personne sur 5 pourrait avoir souffert d'une privation d'alimentation chronique en 2017. C'est en particulier en Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, qui nous préoccupe. Et c'est lié essentiellement à des situations de sécheresse, de hausse des prix et de ralentissement de la croissance, notamment du PIB par habitant dans ces pays. Il est clair que l'augmentation de la prévalence combinée à la croissance de la population a entraîné une augmentation qui est assez spectaculaire du nombre de personnes en sous-alimentation en Afrique, puisqu'en fait on est passé de 181 millions de personnes en 2010 à 222 millions en 2016, ce qui représente quand même une augmentation de près de 23% en 6 ans.
Que faut-il faire pour renverser la tendance ?
Tout d'abord, il y a la question des conflits en Afrique qui affectent beaucoup de pays. Et l'an dernier, une organisation comme la FAO, avec ses partenaires, avait attiré l'attention sur la famine qui avait été déclarée au Sud-Soudan, mais aussi les risques de famine qui menaçaient d'autres pays, dont la Somalie et le nord-est du Nigeria. Donc tout d'abord, il est évident que la paix et la stabilité sont des éléments essentiels qui doivent être mis en place dans ces pays. Ensuite, par rapport effectivement à la question de la variabilité du climat et des extrêmes climatiques, il est absolument fondamental que nous renforcions ce qu'on appelle la résilience face au climat en combinant des actions d'adaptation au changement climatique avec des actions liées à la réduction du risque de catastrophe, à finalement diminuer l'exposition des agriculteurs et des petits producteurs au risque de catastrophe.
Dominique Bourgeon, le directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO à Rome.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé aujourd'hui qu'il comptait effectuer dans un avenir proche une visite historique à Séoul à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen Moon Jae-in, ce dernier qui s'était rendu dans la capitale nord-coréenne pour tenter de sortir de l'impasse. Les négociations sur la dénucléarisation du Nord ont indiqué que la visite de M. Kim pourrait intervenir cette année à moins de circonstances particulières. À propos de la Corée du Nord toujours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va présider le 27 septembre une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à nouveau la communauté internationale à maintenir la pression sur Pyongyang. Cette réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies va permettre de faire un point sur les efforts vers la dénucléarisation. L'universitaire qui accuse le candidat de Donald Trump à la Cour suprême d'une agression sexuelle remontant aux années 80 a réclamé mardi soir une enquête du FBI sur les faits présumés avant d'être auditionné par le Sénat et d'y être la cible de menaces de mort depuis la révélation de son nom. Christine Blasey-Ford, âgée de 51 ans, accuse le juge de l'avoir agressée sexuellement lors d'une soirée arrosée en banlieue de Washington il y a 36 ans, ce qu'il dément vigoureusement. Fin de ce journal, le
Soyez
prochain.
Cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi,